Alors, bonsoir à tous. On va continuer notre présentation sur le sujet des anges, l'étude de Satan plus particulièrement. Et ce soir, nous allons regarder le sujet des motifs de Satan. Qu'est-ce qui motive Satan dans sa marche? Pourquoi il a choisi le chemin qu'il a choisi? Et qu'est-ce qui fait qu'il va continuer dans ce chemin-là jusqu'à la fin? En abordant ce sujet-là sur les motivations de Satan, on pourrait commencer par une question plus fondamentale qui est « Pourquoi est-ce que le mal a été permis dans le monde? » Point final. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que le mal soit trouvé en Satan puis que Satan ne soit pas jugé immédiatement, mais qu'il y ait tout ce développement que l'on connaît aujourd'hui? Alors, pour le mettre autrement... Quel est le motif ou la motivation de Dieu à ce que ce développement du mal ait eu lieu? Ah, c'est une question qui est vraiment difficile à répondre et qui a plusieurs volets. Nous, il faut comprendre qu'on est des créatures limitées, avec une connaissance limitée, avec une sagesse limitée. On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. On n'a pas le même degré d'information et la même capacité de pouvoir juger de cette question-là honnêtement et en tirer une conclusion exacte. Donc, on doit immédiatement faire très attention en abordant cette question-là de quelle était la motivation de Dieu, parce que on peut discerner certains aspects de la réponse à cette question, mais de là à juger si c'était bien ou pas de le faire, on n'est absolument pas en position de le faire. À vrai dire, on va être en position de le faire, peut-être, fort probablement, lorsqu'on va être au ciel. Là, on va être pas mal différent de ce qu'on est présentement, et peut-être qu'on sera en mesure d'apprécier beaucoup plus profondément toutes les œuvres de Dieu dans leur ensemble. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Donc Dieu, étant le Créateur Tout-Puissant, il aurait pu entièrement empêcher le développement du péché. Il n'y a aucune question là-dessus, ça aurait pu être tué drette là, dès le départ. Donc plusieurs suggestions pourraient être faites sur les raisons pour lesquelles Dieu a choisi de laisser ce développement du mal se faire, mais nous on va s'attarder à seulement un seul aspect de toutes ces choses qui pourraient être suggérées. Parce que si on discutait l'un l'autre ensemble, on pourrait arriver à apporter des points soutenus par les Écritures qui seraient tout à fait valables, qui nous donneraient une facette additionnelle sur pourquoi Dieu a permis le développement du mal. Je pourrais en nommer d'emblée quelques-uns en ce moment, et je suis certain que la plupart d'entre vous pourriez aussi ajouter quelques suggestions qui seraient justes et dans lesquelles il y aurait du vrai dans celle-ci. Et si on arrivait à regrouper ensemble toutes ces suggestions-là, eh bien, probablement que ça serait seulement une infime fraction de ce qui a vraiment amené Dieu à faire ainsi. On n'arriverait pas, même tous ensemble, à pouvoir vraiment établir ou comprendre le pourquoi ces choses-là ont été permises. Dieu est infiniment plus grand et plus sage que nous, additionnés ensemble, toute la gang. Donc, parmi les réponses possibles, on va en choisir seulement une, justement, et puis on l'a déjà mentionné dans des présentations précédentes, c'est que Dieu permet la mise au test expérimentale et pratique des suggestions de sa créature. La créature dit une chose, Dieu a permis, parce que la créature elle a été créée libre de penser, libre de choix, intelligente, Dieu a permis que ce qui est suggéré soit mis au test. On donne par exemple Job. Qu'est-ce qui s'est passé avec Job? On s'en souvient. Eh bien, Satan est venu dans la présence de Dieu et Dieu a dit « Regarde Job, mon serviteur, il est juste, droit dans tout ce qu'il fait, etc. » Là, Satan, soudainement, lui, a eu son idée parce que n'oublions pas, Satan, hein, c'est un menteur dès le commencement et puis c'est aussi, il contredit Dieu tout le temps, la contradiction, il est le maître là-dedans. Il dit « Oh ouais, mais... » Mais Job, qui te dit pas qu'il est comme ça juste parce que tu le gardes, tu le protèges, tu lui fais du bien et tout et tout? Dieu savait très bien, on est tous d'accord, c'est clair entre nous, Dieu savait très bien la réponse à cette suggestion méchante de la part de Satan. Il savait très bien que Job, il n'y avait rien en lui. Il a dit Job, il était juste. Il savait cela, il l'avait déclaré juste. Eh bien, malgré cela, il a permis que le défi qui a été lancé par Satan soit relevé. N'oublions pas que Satan n'est pas comme Dieu, il ne sait pas tout. Puis nous, on n'est pas comme Dieu, on ne sait pas tout. Tu sais, des fois même qu'il faut qu'on communique ensemble, faut qu'on parle pour arriver à se comprendre l'un l'autre. Comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon interlocuteur, c'est par des paroles. Je ne peux pas deviner ce qui se passe dans son cœur. Je vois de mes yeux, je peux arriver à une conclusion de ce que je vois et de ce que j'entends. Mais je suis une créature limitée. Satan aussi, peut-être un peu moins limité que nous sur certains aspects, mais lui aussi est une créature limitée. Donc Dieu a permis qu'un test pratique soit mis pour prouver pratiquement que ce que lui savait qu'il y avait dans le cœur de Job ressorte pour confondre Satan. Donc on voit que la contre-vérité que Satan a amenée a été mise au test expérimental pratique. Ce test-là a coûté cher. Ça n'a pas du tout fait plaisir à Dieu. Dieu, bon, il prend soin des siens, il les garde. On voit que c'est ce qu'il faisait avec Job. Mais le test a été mis en pratique. Mais si ça l'a coûté cher, la victoire qui en est ressortie a surpassé le prix payé. Parce que qu'est-ce qu'il pouvait dire le diable après? Il ne pouvait plus rien dire. Il a eu la bouche fermée. Job a été trouvé juste. Bien sûr! On n'entrera pas dans les autres aspects, comme je vous ai dit, on pourrait parler de plusieurs choses, mais dans Job, Dieu, il savait qu'il y avait un travail à faire dans son cœur aussi. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a juste Dieu qui est capable de faire. Il y a juste Dieu qui est capable de faire arriver 18 choses en même temps, 18, 21 choses en même temps, pour le bien de ceux qui l'aiment. Puis Satan s'en rend même pas compte très souvent. Toute chose concourt pour le bien, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui nous font toujours ressembler davantage à la personne du Seigneur Jésus. Ainsi, la victoire gagnée a grandement valu le prix payé. C'est l'invention de la méthode scientifique, mes chers amis, à date pas d'hier. La méthode scientifique, c'est de vérifier par l'expérimentation les choses qu'on observe, voir si on peut répéter, etc. C'est un peu cela qu'on voit ici, la mise en pratique. Donc, on voit ici que cette façon de procéder dans toutes les dispensations se trouve. Dieu fait cela. Donc, les assertions de la créature sont mises au test. Et puis, on pourrait voir en Job une représentation de tout ce qui se passe actuellement dans la création. À la fin de tout, la créature aura été testée de toutes les manières possibles et aura prouvé son échec dans tous les cas. Nous, on dit, on peut vivre sans Dieu. Nous, on dit, je suis capable de faire ça. Nous, on a plein de prétentions, puis on dit plein de choses. Dieu, il dit, OK, vas-y. Puis quand on se casse le nez au bout du compte, ben, oups, c'était pas vrai. On y arrive. Donc, la mise au test du mensonge de Satan, elle aura sa fin aussi. Dieu a donc permis que l'hypothèse de Satan soit mise au test expérimental, et ce, jusqu'à sa triste fin. Donc, le point de départ du péché de Satan a été de vouloir dire qu'on peut vivre de façon indépendante de Dieu, être semblable à Dieu, s'élever au-delà de Dieu, puis qu'on a, ben justement, on n'a pas besoin de Dieu. Dieu a dit, il a permis que cette façon de penser, cette philosophie de Satan soit mis en action pour que lui-même constate les résultats. Nous, on ne peut pas mesurer avec quelque sagesse que ce soit, comme j'ai mentionné tantôt, ces motivations-là qui ont amené Dieu à permettre cela. On est trop limité. On n'a pas une perspective suffisante des choses pour arriver à une conclusion qui serait juste et exacte. Donc, on peut juste constater que le triste et le mauvais état du monde dans lequel on vit présentement, c'est-à-dire le système de ce monde, cette façon de choses dans laquelle on est, cette façon de penser, cette façon d'agir, sont les résultats du chemin que Satan s'est proposé lui-même dans son propre cœur de suivre et dans lequel il a entraîné aussi plusieurs anges et l'humanité entière avec lui. Le mensonge de Satan, un jour, il sera reconnu et reconnu comme tel. Et regardez bien ici c'est une chose assez extraordinaire que Dieu est en train de faire. Dieu aurait pu empêcher le développement du mensonge, mais il a plutôt permis à Satan que de poursuivre son chemin jusqu'à ce qu'il arrive à sa fin, et puis qu'il permette aussi qu'à la fin, les résultats du chemin de Satan deviennent aussi la base de la condamnation même de Satan. Quand Satan et sa théorie vont venir en jugement, et la mise en exécution de ce jugement-là, toute bouche sera fermée et tout le monde sera coupable devant Dieu. C'est écrit dans Romains 3, verset 19. Tous ceux qui auront suivi ce mensonge-là, tous ceux qui auront suivi les voies de Satan, ils vont être reconnus coupables non seulement en relation avec les idéaux de Dieu, mais aussi aux yeux même de ceux qui sont coupables à la lumière de l'échec monumental de l'entière entreprise. Donc, tous ceux qui auront suivi le mensonge de Satan, ils vont réaliser l'échec de cette façon de penser-là, de cette façon d'agir-là, de cette façon de voir-là. Et puis, face à l'échec, eux-mêmes, des créatures pleines de volonté propre, pleines d'illusions trompeuses, eux-mêmes vont être amenés à confesser et à reconnaître que tout ça, c'est un gros mensonge. Dieu est vrai, et puis ce que Satan proposait dans sa façon de vivre, indépendante de Dieu, où l'homme peut dicter, parce que nous on est des hommes, hein, mais lui au niveau des anges c'était la même chose, l'homme peut dicter lui-même les règles du jeu et sa propre voie à suivre, puis que l'homme est juste en lui-même, puis etc. Tout ça, c'est un mensonge. Donc, c'est une chose assez extraordinaire que ces créatures-là, nous, tout comme ces anges déchus-là, ils vont arriver elles-mêmes, ces créatures pécheresses, à la conclusion que c'est faux. Donc, c'est une chose monumentale que Dieu est en train de faire. Comment est-ce qu'on peut arriver, nous, à convaincre une autre personne? Souvent, c'est dur de convaincre quelqu'un d'autre. Et puis, on le dit souvent, hein, l'expérience va te le montrer. C'est quand nous-mêmes, on fait une mauvaise expérience, puis on arrive au bout de notre idée, qu'on se rend compte souvent que c'était pas une bonne idée. Mais d'autres nous l'avaient dit avant, mais on ne les a pas crus. C'est quand nous-mêmes, on était au bout du chemin qu'on a cru, puis qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne idée. Mais c'est exactement ça qui va arriver. C'est exactement ça qui va arriver. Seule une démonstration qui ne laisse place, pas même à aucune personne, d'ouvrir la bouche pour dire « oui, mais » c'est juste une telle expérience qui va faire en sorte que toute bouche va être fermée au bout du compte. Donc, non seulement toute bouche va être fermée, mais ils vont être tous trouvés coupables devant Dieu aussi. On trouve ça dans Romains 3, verset 19. On le voit ici. « Afin que tout le monde soit trouvé coupable devant Dieu. » Donc, personne ne peut dire la part inouïe que cette conclusion va apporter à la félicité et à la paix et à la bénédiction de l'univers entier pendant l'éternité à venir. Regardez bien, lorsqu'on va être dans l'éternité, dans la présence de Dieu, le mensonge va avoir été révélé, va avoir été manifesté, il va avoir été déclaré tel, il va avoir été aussi jugé. Toutes les illusions des créatures déchues seront entièrement ôtées. Ils vont savoir qu'il n'y avait aucune chance dans leur chemin qu'ils ont suivi de rébellion contre Dieu. Cette rébellion-là va être manifestée, puis toutes les créatures qui auront eu part au mensonge de Satan vont être jugées et le jugement va être exécuté. Tout ce qui est en lien avec le mensonge va être ôté. Toutes les conséquences du péché vont être à jamais enlevées pour toute l'éternité. Il n'y aura plus jamais aucune trace ni aucune possibilité de mal dans le ciel pour l'éternité. Il n'y aura plus aucune trace de mensonge. La mort, la peine, les larmes, les douleurs, non, il n'y aura plus rien de cela. Parce que toutes ces choses sont les conséquences du péché et du mensonge de Satan qu'on peut vivre très bien sans Dieu et qu'on n'a pas besoin de Dieu et puis on peut faire à notre tête. Regardez, c'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Satan leur a dit, vous allez être comme Dieu. Ah ouais? On ne va pas écouter. Ils ont écouté le mensonge de Satan, ils ont pris le fruit. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens vont dire, oui, mais ce n'est pas de ma faute, moi, ce que Adam et Ève ont fait. Attends une minute. Dieu il déclare aujourd'hui à tout homme de se repentir, de se tourner de leur péché, de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Tout le monde aujourd'hui est encore libre de choisir. C'est la même chose. Tu as le choix de venir à Christ, de croire en lui, de te repentir de tes péchés et d'être sauvé. C'est gratuit. Tu as juste à le faire. t'es sauvé. Si tu dis non, je veux vivre à ma tête et faire comme j'ai envie, ben tu as aussi les conséquences de ton choix. C'est exactement le même choix. On a le choix d'obéir à Dieu ou de pas obéir à Dieu. Fait que ça sert à rien de pointer du doigt Adam et Ève. C'est vrai qu'eux autres ont eu le choix aussi d'obéir à Dieu ou pas obéir à Dieu. On choisit de pas obéir, mais toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisis? D'obéir ou de pas obéir à Dieu? Les conséquences vont être dramatiquement différentes selon le choix qui est fait. Si on obéit à Dieu, si on croit à son Fils Jésus, qu'on se repent de nos péchés, qu'on sait qu'il est mort à la croix pour nos péchés, il nous donne la vie, il nous justifie, il nous lave de tous nos péchés. Si on ne reçoit pas ça, c'est la condamnation qui nous attend, la même condamnation qui va tomber sur Satan et ses anges et tous ceux qui l'auront suivi, tant anges que hommes ou femmes. À la fin de tout, on pourra dire que la fin justifie les moyens pour Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas calculer ni la fin, parce qu'on ne connaît pas la fin, puis ni les moyens qui sont présentement employés, parce qu'on ne les connaît pas tous, puis on n'a pas la sagesse de Dieu dans tout ce qu'il fait. Mais quand nous, on va être au ciel, dans la présence de Dieu, on va pouvoir dire que oui, la fin justifiait les moyens. Parce que la fin, frères et sœurs, elle sera extraordinaire. Bénédiction éternelle à tout jamais. Il n'y aura plus rien du mal, plus rien du péché. Puis tous ceux qui vont être dans la présence de Dieu seront ceux qui auront eu justement l'amour de la vérité. All right. La présence du péché dans le monde maintenant. On va aborder ce point-là et ensuite on va regarder au motif de Satan. La présence du péché et des souffrances dans le monde, justement, sont le résultat inévitable. Le résultat inévitable du mensonge que la créature veut vivre et qu'elle peut, en disant qu'elle peut vivre indépendamment de Dieu et être comme Dieu. Imaginez, on est quoi? 8 milliards d'habitants sur la planète Terre? 8 milliards de personnes qui veulent vivre en totale indépendance de Dieu, qui veulent être elles-mêmes Dieu et déterminer elles-mêmes ce qui est bon puis ce qui est mal et déterminer elles-mêmes ce qui est vrai puis ce qui est faux. 8 milliards fois ça, ça en fait-tu des guerres, ça? C'est-à-dire, tu vas être tranquille si ton voisin, il pense que c'est toi qui est le meilleur, tu n'auras pas de conflit avec lui. Mais si toi puis ton voisin, vous avez envie d'être les deux le meilleur puis celui qui est, tu sais, qui l'a l'affaire puis... Mais il va y avoir des conflits, il va y avoir des guerres, il va y avoir du sang qui va être versé. C'est ça que ça fait le péché. C'est ça la philosophie de Satan. Ça marche quand tu es tout seul. Mais quand tu n'es pas tout seul, ça ne marche pas. Donc souvent, la présence du péché et de la souffrance dans le monde sont considérées dans ce monde comme étant une intrusion à l'ordre de choses. Ce monde devrait être parfait, ce monde devrait être fantastique, un lieu magnifique où il fait bon vivre. Puis Dieu est souvent accusé à cause du mal qui est dans le monde. C'est étrange, hein, comment on élève vite le point puis on dit « Mais pourquoi Dieu il permet ci puis il permet ça? » Quand Dieu a créé, tout était parfait. L'homme a choisi de pécher. Mais ce qu'on mange, ce qu'on goûte maintenant, c'est les conséquences de notre péché. Le mal, les souffrances, viennent pas de Dieu. Ils viennent de nos choix. Ils viennent de 8 milliards de personnes qui ont envie d'être comme Dieu, puis qui ont envie de vivre à leur tête et selon leurs idées. Voilà, c'est ce qui se produit. La parole de Dieu nous révèle clairement que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est sous les conséquences du péché et que Satan est derrière cet état de choses et le système de choses. C'est sa philosophie qui fait rouler le monde et la façon de penser que tout le monde a, ça vient de lui. Dieu, il intervient seulement afin de retenir le mal. On lit ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, au sujet du développement de l'iniquité. Dieu retient le mal et il va le faire jusqu'à ce que le jugement de Dieu tombe sur ce monde. Avant que son jugement tombe sur ce monde, il va prendre auprès de lui tous ses rachetés, tous ceux qui croient en lui et en son Fils Jésus qui est mort à la croix pour leurs péchés, et puis tous ceux qu'il a connus. Ce sont tous ceux qu'il a connus et choisis dans sa grâce souveraine dès avant la fondation du monde. Donc, au bout du compte, le mensonge revient à dire ceci, le mensonge de Satan. C'est soit Dieu règne sur l'univers, ou soit il ne règne pas du tout. La vérité dit que Dieu règne sur l'univers. Le mensonge, lui, dit que non, Dieu ne règne pas. C'est moi qui décide. C'est ça qu'il dit, le mensonge. Évidemment, comme on l'a dit tantôt, D'autres raisons pourraient être données sur le pourquoi il y a des souffrances et des péchés dans le monde. Et puis plusieurs de ces raisons-là seraient juste, il y aurait des vérités dedans. Et plusieurs raisons pour lesquelles aussi Dieu a permis ce développement de choses-là, qui nous dépassent. Il faut juste l'accepter simplement. C'est le test expérimental des suggestions de la créature. Mais une chose qui peut être certaine, c'est qu'on peut avoir confiance que Dieu demeure, malgré tout cela, en contrôle de tout. N'oublions pas que Dieu a créé des créatures libres. On n'est pas des robots. Les anges n'étaient pas des robots, puis nous, on n'est pas des robots. On est libre de choisir. Et Dieu va respecter ça. Si on veut vivre heureux, c'est auprès de lui. C'est seulement lorsqu'on reconnaît ça qu'on peut véritablement, non seulement vivre heureux, ici-bas sur cette terre, dans ce monde de péché, c'est quand même difficile, mais en Christ, nous avons la vie éternelle et la vie en abondance. Donc, ceci étant dit, plusieurs autres choses pourraient être dites, mais on ne va pas aborder ces autres aspects-là. On va juste se concentrer sur ce qui touche à notre sujet. Et puis, je pense que la mise au test expérimental des suggestions de la créature est une motivation intéressante à avoir à notre considération en relation avec ce que Satan s'était proposé. Ainsi, la présence du péché et de la souffrance ne sont pas un échec de la part de Dieu, mais bien les conséquences inévitables de l'échec, de la faillite du mensonge lui-même. Non, c'est ce chemin-là qu'on devrait faire. On va dessiner nous-mêmes. Ça amène toutes les peines et les misères dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Alors que si on avait simplement suivi les voies de Dieu, aucune de ces choses n'existerait. C'est les conséquences du choix de la créature. Maintenant, la question de ce soir, les motifs de Satan. Qu'est-ce qui motive Satan dans sa marche? Qu'est-ce qui l'a motivé dès le départ? On va regarder à différents volets sur cette question. OK. Premièrement, on va utiliser ce qu'on peut trouver dans la parole de Dieu qui se rapproche le plus de notre sujet pour essayer de dresser un portrait de ce qui est la motivation de Satan. Mais vous allez voir, à un certain point, à force de lire des versets puis des passages, ça devient assez évident. OK? Fait qu'on va commencer. Premièrement, on peut comprendre, on peut voir un peu les motifs de Satan à travers l'homme de péché qui va être manifesté dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, où nous lisons, ces choses sont à venir, sont pour très bientôt, où nous lisons au sujet de ce personnage particulier. Des choses nous sont dites qui nous enseignent, qui nous montrent quels sont les motifs de Satan. Pourquoi? Parce que cet homme de péché, lui, il va absolument, entièrement embrasser, je ne trouve pas l'autre mot, je pense que c'est un mot acceptable, il va recevoir, embrasser complètement la philosophie de Satan. C'est pour cela aussi d'ailleurs qu'il est appelé l'homme de péché. C'est comme le point culminant de cette philosophie-là. Lui va vraiment être l'incarnation, embodiment, je dirais en anglais, mais l'incarnation de cette philosophie, de ce concept-là, ça va être lui. Donc, en regardant ce personnage-là, on peut déjà trouver quelques points des motivations de Satan. Alors, on lit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4, que cet homme de péché, il s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Alors, remarquons les 4 actions qui nous sont présentées ici concernant cet homme de péché. C'est une sorte de présentation en 4 points des motifs de Satan. Premièrement, il s'oppose. Il s'oppose à Dieu tout le temps pour contrecarrer ses plans et surtout son propos quant au salut de ceux qui sont perdus. Deuxièmement, on voit qu'il s'élève. Il s'élève au-dessus de Dieu. Troisièmement, on voit qu'il s'assoit. Il s'assoit dans le temple. Hein? Autrement dit, dans son ambition, il tente de s'approprier l'autorité qui n'appartient qu'à Dieu seul dans les faits. Et quatrièmement, on le voit comme se présentant lui-même comme étant Dieu. Donc, il cherchera à être adoré comme Dieu est adoré. Remarquez que les hommes déchus ont aussi ce mensonge et ces motivations en chacun d'eux. Il y aura inévitablement, comme on l'a mentionné tantôt, des conflits et des souffrances quand chacun d'entre nous, créatures déchues, êtres humains, désirons ces choses pour nous-mêmes. S'opposer, s'élever, dominer, puis être reconnu. Donc, on peut remarquer ça dans notre travail, on peut remarquer ça à l'école, on peut remarquer ça dans la politique, on peut remarquer ça partout. C'est tout le temps une question d'être plus haut, meilleur que l'autre, tout en faisant attention des fois un petit peu à l'orgueil de l'autre quand même, parce qu'on ne veut pas juste se faire des ennemis dans la vie, mais s'élever tout le temps. Maintenant, on le voit aussi dans Ésaïe. Ésaïe, les dispositions, les motivations de Satan. On a déjà vu ce verset, on va le relire simplement pour faire ressortir ce point-là. Donc, dans le passage central d'Ésaïe, dans chapitre 14, versets 12 à 14, eh bien, on lit ceci, c'est écrit, on y retrouve les cinq « je vais ». Les cinq « je vais » que Satan mentionne. Alors, on voit « je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône, je m'assierai sur la montagne, je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut ». C'est l'homme de péché, on vient de voir, hein, c'est exactement les mêmes actions. Comme on disait, hein, il va représenter 100% la philosophie de Satan, c'est exactement cela qu'il est. Donc, bien que chacun a un objectif particulier dans les cinq « je vais » que Satan mentionne ici, tous convergent vers le dernier, c'est-à-dire « je serai semblable au Très-Haut ». La seule façon qu'une créature puisse tenter d'être comme Dieu, c'est en étant indépendant de Dieu. Je décide ce que je veux, je fais ce que je veux, je n'ai pas besoin de Dieu pour vivre, je n'ai pas besoin de personne d'autre pour vivre. Je suis indépendant, je veux être comme Dieu. Dieu ne dépend pas de personne pour vivre. Dieu a toujours été, Dieu a tout créé, il n'a pas besoin de rien. Il est 100% cet être indépendant, si vous voulez. Il ne dépend pas de personne, ni de quoi que ce soit, ni de rien d'autre. Nous, on est des créatures, on dépend de Dieu. Si je vis aujourd'hui, c'est parce qu'il le permet encore. Donc, c'est ça ici l'idée. Si on choisit un chemin d'indépendance, alors dès le point de départ, la créature doit se séparer entièrement du Créateur et vivre une vie loin de lui tout le temps. Elle doit rejeter Dieu. C'est la philosophie qui doit être suivie. Et ensuite, l'autre conséquence de cela, c'est qu'il faut être engagé entièrement dans un chemin que nous-mêmes, on aura déterminé pour soi-même et puis demeurer dans ce chemin-là jusqu'à la fin. Parce qu'on n'a pas besoin de Dieu puis on ne veut pas de Dieu. Alors, c'est ça toute la philosophie. C'est ce que Satan a fait aussi. Il s'est déterminé un chemin, une façon de faire, une ligne de pensée, et il marche dans celle-ci jusqu'à la fin. Et puis, remarquons les hommes de ce monde. C'est la même chose. Sauf si, par la grâce de Dieu, le salut entre dans leur vie. Ils se rendent compte que ce chemin qu'ils suivaient, qu'ils s'étaient proposé, qu'ils pensaient être bon, indépendant de Dieu, je fais ce que je veux, moi, dans la vie, je décide de tout, c'est un chemin qui mène à la mort et à la perdition. Il faut se détourner de cela et c'est seulement par le Seigneur Jésus qu'on peut sortir d'un tel chemin. Alors, dans un tel chemin, une créature déchue qui suit ce chemin-là, il y aura simplement quelque chose qui va être importante. Ça va être de s'opposer à Dieu puis de recevoir la gloire pour soi. Parce que la gloire, elle revient à Dieu seul. Mais si je veux la gloire pour moi, je vais devoir m'opposer, sans même le vouloir, à Dieu. La parole de Dieu déclare clairement que c'était l'orgueil qui était à la base de ça dans Satan lorsque lui a pris ce chemin-là. C'était l'estime de soi. Il avait vu sa propre beauté, pour ainsi dire. Dans Ézéchiel 28, 17, on lit « Ton cœur s'est élevé pour ta beauté ». Ça, c'est l'orgueil, ça. Il avait les yeux pour lui. « Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur ». Et puis dans Timothée, on lit, on l'a vu aussi le passage dernièrement, qu'il ne soit pas nouvellement converti de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Le mot « faute du diable », c'est vraiment ce qui condamne le diable. La faute, c'est ce qui le... Oui, quand on dit « c'est ta faute », c'est la chose qui condamne. Donc, ce qu'il condamne, c'est quoi? C'est l'orgueil. Donc, la parole de Dieu est claire là-dessus. C'est son orgueil qui l'a amené à ces choses-là. C'est ce qui était à la base même fondamentale de sa motivation. Et cela a bourgeonné en plusieurs fruits qui ont suivi inévitablement la prise de position qu'il a prise. Donc, toutes les autres choses qu'on a vues s'élever, être comme le Très-Haut, dominer, etc., c'est tout l'orgueil qui ont fait qu'il s'est mis à suivre ce chemin-là et à dire « Moi, j'ai pas besoin de Dieu. Hey, je suis super, je suis fantastique. Je vais être comme Dieu. » Il y a des gens qui disent ça aujourd'hui. « Dieu, c'est moi. » Il y a des gens qui disent ça. C'est vraiment être perdu. Et c'est exactement ça, l'aveuglement du mensonge de Satan. Alors, chose étrange, hein, il semble que Satan, lui, ne perde pas confiance dans sa démarche et puis ça va durer jusqu'à la fin. Il va probablement perdre confiance dans sa démarche lorsqu'il va être précipité sur la terre. On se souvient que dans Apocalypse 12, verset 12, on lit « Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Là, il va savoir qu'il y a peu de temps. Puis là, il va savoir qu'il est au bout de son chemin puis que ça n'a pas fonctionné comme il pensait. Mais d'ici là, il persévère sans relâche dans le but de l'accomplissement de ses objectifs et de son but. Donc, ce projet que Satan a formé dans son esprit a été inspiré par son orgueil et puis l'exaltation de soi. Il s'est répandu tant dans les cieux parmi les anges que sur la terre lorsqu'il est venu vers Adam et Ève. Le monde que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, c'est présentement le monde dans lequel on vit, le système de choses dans lequel on vit. Eh bien, c'est ce que Satan s'était proposé dans son cœur et c'est aussi ce que Dieu a permis d'exécuter. Et cela jusqu'à la fin tragique de ce parcours-là. Donc, n'oublions pas cela. Des fois, on pense qu'on se débrouille bien ici-bas sur cette terre, mais on peut être très influencé par la philosophie et la façon de faire des choses de notre réalité présentement. Et l'ensemble de cette façon de fonctionner, c'est le mensonge de Satan. J'ai une bonne carrière, je vais progresser, je vais m'agrandir, je vais posséder, je vais être reconnu, je vais avoir de la... tout ça, c'est la poudre aux yeux, le bluff, c'est exactement le chemin de mensonge que tu n'as pas besoin de Dieu, tu peux t'accomplir, puis ta fin va être extraordinaire. Dieu il dit... Tu as besoin de moi, tu ne pourras jamais être accompli hors moi, puis ta fin, ça va être le lac de soufre et de feu si tu demeures dans tes péchés. Ben, c'est ça la réalité du monde dans lequel on est aujourd'hui. J'aimerais juste te dire, on a peu idée à quel point on est influencé sans s'en rendre compte par la façon de faire du monde dans lequel on est aujourd'hui. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour discerner ces choses, afin de mieux marcher pour lui. Examinons maintenant quatre jalons du parcours de propre volonté de Satan. Le mot « jalon » en français, en anglais, c'est « milestone ». C'est un mot... autrement dit, j'ai pris le mot « jalon », même si ce n'est pas un mot habituel en français, pour tout le monde peut-être, parce que ce n'est pas vraiment des étapes, mais c'est plutôt quatre points de repère, quatre marques, quatre points de repère, je vais le dire comme ça, j'aurais pu mettre quatre points de repère, du parcours de Satan dans sa propre volonté. Donc, c'est vraiment le sens que je veux communiquer avec le mot « jalon ». C'est un point qu'on peut identifier clairement au niveau de son chemin qu'il a suivi. Donc, le premier, on va regarder à quatre passages. Le premier, on le connaît, c'est Ésaïe 14, verset 14, où c'est écrit « Je serai semblable au Très-Haut ». Il a dit ça, Satan, dans son cœur. « Je serai semblable au Très-Haut ». Alors, c'est là le point de départ de toute la méchanceté de cet ange qui, avant, était parfait. Et il est devenu 100% pas balancé, moitié bon, moitié pas bon. Il est devenu 100% mauvais. Ses motivations nous est très clairement révélées dans ce passage d'Ésaïe 14, verset 14. Le deuxième jalon, c'est dans Genèse 3, verset 5. Lorsqu'il a dit à Adam et Ève, « Vous serez comme Dieu », on voit qu'est-ce qu'il a pensé. Il le suggère aux autres maintenant. C'est sa philosophie. Il communique sa façon de voir les choses. Alors, combien d'anges ont entendu cette même suggestion, pour ainsi dire? On a la suggestion dans Apocalypse 12, hein, oui, 12, qu'il a entraîné avec lui le tiers des étoiles dans le ciel. La queue du dragon qui a entraîné le tiers des étoiles. Est-ce possible qu'il a entraîné le tiers des anges avec lui dans cette suggestion maléfique? C'est possible que ce soit le cas. Donc, son conseil a été reçu aussi, malheureusement, de la part d'Adam et Ève, et il a été mis en action. Et comme Adam était le chef de la race humaine, eh bien, malheureusement, nous vivons, nous aussi, sous les conséquences de son choix. Et tous ceux qui sont nés de lui ont hérité, comme notre bagage génétique, ce bagage spirituel aussi. Et malheureusement, nous vivons sous les mêmes conséquences. Ce que Dieu avait dit était vrai. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et la parole ne peut jamais manquer de s'accomplir et tout ce que Dieu dit va s'accomplir. Immédiatement, Adam est mort spirituellement. Et un petit moment après, il est mort aussi physiquement. Et on connaît les conséquences de cela jusqu'à aujourd'hui. Toute personne qui naît naturellement dans ce monde n'a pas de relation avec Dieu. Il est mort spirituellement. Il peut entrer en relation avec Dieu seulement par la nouvelle naissance. En croyant en Jésus-Christ comme le Sauveur du monde. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie, et par lui seul, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Donc, les conséquences sérieuses du péché d'Adam, elles sont la mort spirituelle. Et puis, ça veut dire que notre âme est séparée de Dieu dès la naissance. Donc, c'était l'état de nos premiers parents, et c'est devenu notre héritage, puis tout être humain a part à cet triste héritage aussi. Jusqu'à ce qu'ils soient rachetés par la grâce infinie de Dieu, ils ont part, tous les êtres humains sur la terre, aux œuvres infructueuses du diable. Et à cet esprit satanique qui influence les peuples et les nations et les individus à vivre une vie indépendante et loin de Dieu. N'a pas besoin de Dieu. Alors, si quelqu'un d'entre les hommes, d'entre les femmes, désire être en bonne relation avec Dieu, il doit premièrement non seulement vouloir être obéissant à Dieu, de façon générale, mais il doit obéir à l'évangile du salut. Il y a plusieurs versets qui parlent de cela. J'écris les références à l'écran. Actes 5, 32, Romains 2, verset 8, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8, Hébreux 5, verset 9 et 1 Pierre 4, 17. On trouve plusieurs expressions telles que « à ceux qui lui obéissent » et puis « ceux qui désobéissent à la vérité, on voit qu'il y a des conséquences. Ceux qui obéissent à l'iniquité, on voit qu'il y a des conséquences. C'est la colère et l'indignation. » On voit aussi que les flammes de feu attendent ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour tous ceux qui obéissent, eh bien, le Seigneur est devenu l'auteur du salut éternel. Et puis, il y aura aussi une fin glorieuse pour tous ceux qui obéissent à l'Évangile de Dieu. Mais ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, ce sera une fin terrible, un jugement terrible, certain qui va arriver. Donc, le moyen par lequel Dieu a pourvu est parfait et donne à toute personne qui croit un salut plein et complet. C'est parfait au-delà de toute mesure. À aucun moment donné dans l'éternité, Dieu va dire « Oups, j'ai oublié un détail. Ouah, ben là, ça ne fait plus mon affaire. » L'œuvre de Christ à la croix, elle est non seulement suffisante, mais elle est la seule chose que Dieu va accepter éternellement. Il l'a déjà accepté d'ailleurs. C'est pour ça que ceux qui croient aujourd'hui en Christ ont la vie éternelle maintenant. Donc, en croyant en Christ, il y a paix avec Dieu. Il y a pardon, régénération, le don de vie éternelle, l'imputation de la justice, c'est-à-dire que Dieu nous déclare juste comme son propre fils Jésus-Christ. Donc, c'est une déclaration de justice morale devant lui. Et puis, on est justifié, c'est-à-dire qu'on est aussi déclaré juste devant Dieu. Donc, Dieu nous rend moralement juste et il nous déclare juste devant lui. Donc, il y a aussi une parole de promesse que bientôt, le juste qui croit dans le Seigneur Jésus va bientôt expérimenter une parfaite conformité avec le Fils de Dieu dans la gloire. C'est-à-dire qu'on va être parfait comme lui est semblable à lui en toutes choses. Donc, le mensonge de Satan, que vous serez comme Dieu, est une affreuse tromperie. Et puis, l'offre de grâce de Dieu, elle, de l'autre côté, est l'assurance finale d'une communion parfaite et permanente avec Dieu pour l'éternité et d'une correspondance parfaite aussi avec le Fils de Dieu. Et c'est ce qu'il nous faut. Et puis, dans nos cœurs, c'est ça qu'on désire. Le mensonge devient alors, au plus haut degré, le contraire absolu, l'antipode de la vérité. Donc, le mensonge de Satan se termine dans la ruine éternelle, mais la vérité de Dieu amène à la félicité éternelle dans une position juste devant Dieu pour celui qui se repose entièrement en Christ. Donc, c'est une merveille, la grâce infinie de Dieu, qu'une seule âme passe des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Et rendons grâce à Dieu que le message de l'Évangile qui prêche encore aujourd'hui amène encore plusieurs personnes qui sont dans les ténèbres dans le royaume de la lumière du Fils de Dieu, du Fils de son amour. Quelle belle expression on trouve dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Alors, combien tragique aussi est la vie présente de ceux qui marchent dans le mensonge et puis qui sont, et leur destinée aussi. Quelle fin terrible. Naître dans un tel état et terminer dans un tel état, c'est la pire des choses. Il nous faut le salut de Dieu, et c'est seulement par Jésus-Christ qu'on trouve ce salut. Donc, si on n'a pas le Fils de Dieu, on aura part. Ceux qui n'ont pas le Fils de Dieu vont avoir part à cette même condamnation et à ce même jugement qui va tomber sur Satan et ses anges. Le lac de feu et de soufre a été créé pour Satan et ses anges. Mais tous ceux qui vont suivre Satan vont se retrouver aussi au même endroit. Ainsi, l'idée de devenir comme Dieu est simplement et de vivre une vie indépendante de Dieu. Cette idée-là tire son origine de Satan. Et puis, c'est ce que Satan a proposé à Adam. Puis, malheureusement, c'est le chemin dans lequel on est tombé. Et le but de Satan est resté inchangé dès le commencement. Son but est toujours d'être semblable au Très-Haut. C'est ce qu'il motive, tout cela avec l'orgueil qui est en dessous. Un troisième jalon se trouve dans Matthieu chapitre 4 au verset 9. Lorsqu'on vous lit au sujet de la tentation du Seigneur dans le désert, qu'est-ce qu'il a suggéré Satan au Seigneur Jésus? Il a dit, « Je te donnerai toutes ces choses si te prosternant. Tu me rends hommage. » Il veut être comme Dieu, il veut avoir l'adoration qui revient à Dieu seul. C'est encore une fois cette même manifestation de sa motivation profonde qu'il fait marcher ainsi jusqu'à aujourd'hui. Quelle chose extraordinaire qu'une créature qui est sortie des mains du Créateur demande au Créateur lui-même de se prosterner comme étant un suppliant devant sa créature. Le Créateur se prosterner devant sa créature en faisant « Oui, quelle audace! Quelle audace il a eu de dire ça au Fils de Dieu! » L'orgueil a vraiment aveuglé complètement Satan. On avait vu que le mot « orgueil » pouvait dire en boucaner, hein, comme la fumée. Complètement aveuglé, à un point que ça l'a rendu complètement fou. Hein. Une folie d'ange, on va dire. Mais pas fou au point où il n'est pas responsable de ses choix puis de ses actes. Mais c'est de la folie furieuse de demander ça à Dieu. Il savait très bien que c'était le Fils de Dieu qui était devant lui. Il savait très bien que c'était Dieu incarné qui était devant lui. Prosterne-toi devant moi, puis je vais te donner tout ça. Ça nous montre qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Ça montre parfaitement qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Qu'est-ce qu'il motive et qu'est-ce qu'il cherche. Dans les trois tentations qui nous sont rapportées dans l'Évangile de Matthieu, justement, au sujet, dans le désert, eh bien, il n'y en a aucune des trois qui montre aussi clairement que celle-là l'objectif de Satan d'être semblable au Très-Haut. Quatrième jalon, on le trouve dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 4 et les versets 9 et 10. On lit ceci. on lit que cet homme de péché qui va paraître s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Et puis, on lit que sa venue, au verset 9, est selon l'opération de Satan, et toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges en sorte, en toute séduction d'injustice, excusez-moi. Ces choses, OK, concernant l'homme de péché, ont été prophétisées il y a longtemps déjà. Et puis, les passages suivants aussi de l'Ancien Testament sont encore plus vieux et nous mentionnent les mêmes choses. Je vais aller très rapidement, il y aurait beaucoup à dire ici, mais je viens juste de voir l'heure, justement, qui est un petit peu trop avancée. Mais dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 2 et verset 6 à 9, il est question du prince de Tyr. Le prince de Tyr, c'est vraiment en référence à cet homme de péché qui va venir. Et on lit ceci au début du passage, « Parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, « Je suis Dieu, je suis assis sur le siège d'un Dieu, au cœur des mers, et tu n'es qu'un homme et non pas Dieu, et que tu élèves ton cœur comme un cœur de Dieu. » Donc on voit ici cette arrogance à vouloir s'élever et à déclarer « Je suis Dieu ». L'autre passage, je vais vite, je suis désolé, l'autre passage est dans Daniel chapitre 7, verset 8. On lit à la fin de ce passage qu'il va y avoir une autre corne, une petite corne qui va humilier. Je suis désolé, on ne peut pas parler du contexte, mais cette petite corne parle aussi de l'homme de péché qui va venir. Eh bien, on voit qu'elle a une bouche proférant de grandes choses, OK? Et dans le chapitre 9 de Daniel, au verset 26 et 27, on lit que le peuple du prince qui viendra, donc le prince qui viendra, c'est aussi cet homme de péché, c'est lui ça. Donc, le peuple du prince qui viendra, eh bien, on lit qu'il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, ça nous parle des actions de cet homme de péché qu'on lit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Donc, remarquez que l'apôtre dit exactement ces choses-là. On a lu, lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. On trouve 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Et puis, l'apôtre Jean dit ceci aussi. Je ne lirai pas tout le passage, c'est dans Apocalypse, chapitre 13, verset 3 à 8, au sujet de la première bête qui sort de la mer, qui représente tant l'empire que l'homme de péché, l'individu. On lit que les nations, le monde entier, vont rendre hommage à la bête, ils vont rendre hommage au dragon aussi, autrement dit, lui donner une adoration comme si c'était Dieu. Et puis, c'est écrit aussi qu'il a une bouche qui profère de grandes choses et des blasphèmes. Et elle ouvrit sa bouche en blasphémant contre Dieu pour blasphémer son nom et son habitation et ceux qui habitent dans le ciel. C'est la même personne. Donc, on voit ici cette arrogance, cette hauteur à vouloir être comme Dieu puis à rabaisser tout le reste. C'est le dernier jalon qu'on peut remarquer ici dans ce déploiement de l'affichage du motif de Satan de vouloir être comme Dieu. Ainsi, le mystère d'iniquité, Dieu permet à Satan de poursuivre son mensonge jusqu'au plein aboutissement de celui-ci dans l'homme de péché, celui qui va réunir les nations et qui va blasphémer jusqu'à dire qu'il est Dieu et demander avec menace de mort d'être adoré comme Dieu. On dit que ceux qui adorent, qui rendront pas hommage à la bête, ils vont être mis à mort. Donc, c'est une adoration qui n'appartient qu'à Dieu seul. Alors, comme on l'a dit au départ, bien qu'on peut trouver des explications, ça reste néanmoins un mystère que Dieu ait permis que le mensonge aille ainsi jusqu'à la fin comme ça. Mais on sait qu'au bout du compte, on va comprendre pourquoi toutes ces choses-là auront eu lieu. Pourquoi Dieu a permis le développement de ça, puis pourquoi il aura permis que ça soit développé jusqu'à ce que le fruit soit même pas mûr, soit pourri carrément, pour montrer la fin de cette philosophie-là. Donc ça, c'est le mystère d'iniquité, justement, qui va être entièrement manifesté. Alors, tout cela est selon les voies de Dieu, et puis bientôt, on va comprendre, et puis ce sera pour la gloire éternelle de Dieu. Le mal reste à la pleine responsabilité de la créature, et puis c'est la créature qui est libre de choisir qui a échoué. C'est pas Dieu. au bout du compte, qui a échoué. C'est nous, dans nos choix et notre façon de faire. On va presque terminer en faisant une analyse finale, très rapide, encore une fois, des motivations de Satan. Et on peut la découper en trois points principaux, cette motivation de Satan. On l'a déjà mentionné, premièrement, ce qui compose sa motivation à la base, c'est l'orgueil. Comme on l'a déjà mentionné, c'est l'occupation de sa propre personne qui l'a amené à une prise de position et à une philosophie de vie qui est complètement opposée à Dieu et à vouloir devenir lui-même semblable au Très-Haut. Il est devenu dans toutes ses voies opposée à Dieu et sa sagesse est devenue entièrement mauvaise et folie. Un deuxième point, donc on a l'orgueil. Le deuxième, c'est l'envie. On ne peut pas exclure la pensée que Satan puisse être offensé et jaloux des voies de Dieu quant au salut. Premièrement, il n'y a pas de salut pour les anges qui ont péché. Deuxièmement, ceux qui sont sauvés par la pure grâce de Dieu, la pure souveraine grâce de Dieu, et puis qui étaient aussi des victimes de Satan, ils sont non seulement arrachés des mains de Satan, mais ils sont élevés à une hauteur de gloire et à une position avec Christ au-dessus des anges. Autrement dit, ceux que Dieu rachète aujourd'hui vont avoir une gloire extraordinaire dans les cieux. Ce que pourtant Satan lui voulait, hein, il voulait être grand, élevé, comme le Très-Haut. Puis là, oups, c'est ceux qui vont être sauvés, qui vont avoir une position extraordinaire avec le Fils de Dieu éternellement. Donc, si une telle envie existe en Satan, eh bien, il n'y a pas de doute que cette envie-là, elle contribue extraordinairement à le motiver, à poursuivre davantage sa motivation orgueilleuse et puis à accomplir ses actes d'opposition envers les œuvres de Dieu. Je l'émets comme une hypothèse. Je pense que c'est une hypothèse tout à fait honnête. Mais on ne peut pas l'appuyer avec... Du moins, je n'ai pas trouvé de passage qui appuie, j'en connais pas, qui appuie cette, scripturairement cette hypothèse-là que le diable pourrait être envieux, pourrait être jaloux de ce salut que nous avons. Mais comme ce sentiment existe chez les êtres humains, ça fait tout à fait plein de sens de penser qu'il pourrait exister aussi. Et le troisième point qu'on peut suggérer, c'est le système de propre justice que Satan a aussi développé, pour ainsi dire. Donc, on a déjà vu cela, ce système de propre justice, dans une présentation précédente, qui était sur la nature pécheresse de Satan et puis les enseignements de Satan. Eh bien, je vais simplement rajouter un verset. Dans 2 Corinthiens 11, 15, on lit que « C'est pas une chose étrange si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. » Donc, on voit que les démons, les anges qui suivent Satan et Satan lui-même, ils se transforment en ministres de justice. Mais ce n'est pas des ministres de la justice de Dieu. C'est des ministres de propre justice, on pourrait lire. Donc, évidemment, c'est en opposition à la justice que Dieu lui donne en son Fils Jésus-Christ. Et ça met la responsabilité de l'acceptation de la justice entre les mains de la créature. Chacun est juste à ses propres yeux. Remarquons que si on demande à des gens s'ils se trouvent bons puis corrects, ils vont tous vous dire oui. Mais si vous leur demandez combien de mensonges ils disent dans une journée, ils vont dire trop. Si vous leur demandez est-ce que vous avez déjà volé, ils vont vous dire oui. Si vous leur demandez avez-vous déjà eu des mauvaises pensées, des convoitises, ils vont être obligés d'avouer que oui. Mais néanmoins, tout le monde est juste à ses propres yeux. Donc, c'est exactement ça le système de propre justice de Satan. La nature est bonne en elle-même. L'homme naturel, la créature. C'est ça le concept. Et puis, s'il faut affiner ou purifier certaines choses, eh bien, on a certains processus. On invente une fausse religion qui permet un purgatoire, puis toutes sortes de trucs, ou un système de réincarnation, ou un système de comparaison. Je suis meilleur que mon voisin. Ouais, c'est pas si pire, ça. On trouve toutes sortes de moyens tout le temps pour se trouver plus juste que les autres. Et puis, on est correct, au bout du compte. Mais malheureusement, pour ceux qui suivent cette philosophie-là, Dieu déclare que tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, et que quiconque gardera toute la loi et faillira en un seul point est coupable sur tous. T'as déjà menti? Fini, mon ami. Est-ce que tu as aimé Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta volonté? Est-ce que tu l'as servi, lui seul? Et est-ce que tu as aimé ton prochain comme toi-même? Non, t'es cuit. T'as-tu honoré tes parents tout le temps, toute ta vie depuis que t'es né? Non, tant pis pour toi. As-tu déjà convoité une femme? Oui, t'es faite. As-tu déjà commis l'adultère et eu des relations sexuelles avant hors du mariage? T'as-tu déjà fait... T'es cuit, n'importe lequel, que ça semble gros ou petit à tes yeux comme péché, t'es cuit. Un seul péché nous amène la condamnation. On n'atteint pas à la justice de Dieu, on n'atteint pas à sa gloire. Remarquons que ce système de propre justice est bien ancré dans le monde d'aujourd'hui. C'est comme ça que tout le monde pense. Et puis c'est le système que Satan utilise pour aveugler les gens. C'est ce qu'on lit dans 2 Corinthiens 4:4. Le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'Évangile, la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Et puis, ça semble être la chose la plus compliquée à comprendre pour les gens, que Dieu nous pardonne et nous justifie gratuitement par la foi en croyant en son Fils Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés. Les gens comprennent pas ça. Les gens, tout ce qu'ils comprennent, c'est la propre justice. Je vais essayer de m'améliorer, je vais essayer de faire mieux, je vais mériter mon ciel, je vais gagner mon ciel, je vais faire des bonnes choses. Ça marche pas. C'est ça que Satan utilise, entre autres, avec une très grande puissance pour aveugler les gens. Et on va voir davantage de détails sur cette question-là au sujet des moyens de Satan, les moyens qu'il emploie dans notre prochaine présentation. Alors, n'oublions pas qu'il y a plusieurs systèmes de propre justice dans ce monde. Je les ai déjà mentionnés quelques-uns. La philosophie des hommes. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions, selon les enseignements des hommes, selon les éléments du monde et non selon Christ. Colossiens 2, verset 8. La religion des hommes aussi, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Ainsi, ce système de propre justice qui est essentiel et nécessaire au mensonge de Satan fait partie des choses qui l'engagent lui-même toujours plus dans sa motivation à persévérer dans ses voies d'iniquité. Satan, il est OK à ses propres yeux. I'm fine. Si tu trouves que je ne suis pas correct, c'est ton problème. Moi, je suis correct. Et c'est exactement ça qu'on a aujourd'hui aussi, partout, autour de nous, dans ce monde. Dieu, lui, nous dit, t'es pas correct. Repens-toi et crois à l'évangile du salut que Christ a accompli à la croix. On conclut cette présentation sur les motivations de Satan. On a vu que Dieu a permis au mensonge de la créature d'être mis au test pratique. Ça reste un mystère pour nous. Mais dans l'éternité, nous comprendrons toute la sagesse de Dieu. Les voies de Dieu sont bien au-dessus de nos voies. Ensuite, on a vu on a retracé quatre jalons, quatre points de repère manifestant la motivation de Satan. Cette motivation ultime est d'être comme le Très-Haut. Qu'une créature puisse être comme Dieu, et cela implique entre autres d'imiter les œuvres de Dieu, de déterminer ou dicter ce qui est convenable et ses propres voies, et puis finalement de s'exalter soi-même, voire même de recevoir l'adoration, point culminant de l'exaltation de la propre personne et ce que l'homme de péché va faire aussi. Ensuite, on a vu, mes points ne sont pas synchronisés avec l'écran. Ah oui, j'ai sauté un point ici, que Dieu, l'autre point qu'on a vu, c'est que Dieu, il intervient continuellement pour retenir le développement du mal. Mais à un certain point, il n'y aura plus aucune restriction sur le mal et ça va être vraiment une période inimaginable de troubles et terribles sur la terre qui va venir. Il n'y a aucun mot pour le décrire, le livre de l'Apocalypse. Il en donne quelques grandes lignes, mais... C'est décrit très sobrement. Ça va être épouvantable. Puis ça ne sera pas encore comme les gens disent, ça va être l'enfer. Ça sera pas l'enfer. Ça va être juste complètement épouvantable. L'enfer, ça va être pire que ça encore. Dieu retient le mal. Et puis finalement, un autre point qu'on a remarqué ensemble, c'est les éléments qui contribuent à la motivation de Satan dans ses voies. Premièrement, l'orgueil, ensuite l'envie, fort probablement, et aussi son système de propre justice font en sorte qu'il continue dans ses voies. Alors que cela nous ouvre les yeux sur la véritable nature du péché, du mensonge qui aveugle et est à la base même de ce monde qui gît dans le méchant. Que cela nous rende sages dans notre marche et mieux équipés dans notre service. La parole de Dieu nous révèle ces choses afin que nous les comprenions, afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alors, ces présentations qu'on a faites jusqu'à aujourd'hui sont justement dans le but de montrer ses desseins et que nous puissions comprendre vraiment ce qui est dans sa tête, ses motivations, ses façons de procéder que nous verrons dans la prochaine présentation, que cela nous ouvre les yeux justement sur toutes ces choses. Alors, c'est justement dans cette optique d'être au courant de ces choses pour que ça nous rende plus sages dans notre marche et plus dépendants du Seigneur et que ça nous donne de voir ce qu'il y a naturellement en nous aussi qu'on doit garder dans la mort, hein? Tenir la chair pour morte, que ces choses-là qui sont en nous aussi soient jugées devant Dieu et que nous marchions dans la dépendance de Dieu, trouvant en lui nos ressources, les forces que nous avons besoin jour après jour et demandant sa bénédiction à lui sur tout ce que l'on fait dans son service. Donc vraiment, on a besoin de Dieu, on dépend de lui en toutes choses. Fait que c'est dans cette optique-là que dans notre prochaine présentation, on va examiner les différents moyens que Satan emploie pour arriver à ses fins. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et qu'il vous garde en lui. Fixons les yeux sur le Seigneur Jésus, il vient bientôt. Thank you.